Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Notre échange est autour de ce que les vivants nous apprennent. Donc j'étais juste en face avant et on était sur les morts et non pas la mort. Et là, nous serons sur les vivants et non pas le vivant. Voilà, c'est bien de redéfinir des termes. À mes côtés, Vinciane Després, philosophe, psychologue, professeur honoraire à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles. Tu n'as de cesse d'interroger notre rapport aux animaux à travers quantité d'ouvrages reconnus internationalement. Le dernier petit ouvrage qui vient de sortir chez Actes Sud s'appelle « Le chez-soi des animaux, petite fable pour les enfants », dont nous parlerons tout à l'heure. Et quelques temps avant, il y avait un autre ouvrage qui s'appelle « Habiter en oiseau ». À ses côtés, Benjamin Allegrini, naturaliste passionné, tu as exploré la faune et la flore de France avant de mener des recherches en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, tu diriges un écosystème de sociétés spécialisées en écologie, dont un laboratoire pionnier de l'ADN environnemental. Et tu es l'auteur du livre « L'ADN fantôme, quand l'invisible laisse des traces » qui est sorti récemment au Lien qui libère. Et pour finir à tes côtés, Pierre Gilbert, tu es prospectiviste spécialisé sur les sujets environnementaux et climatiques. C'est à ce titre que tu as cofondé l'Institut Rousseau, puis Sator, une plateforme de masterclass vidéo novatrice, faisant appel aux meilleurs experts de leur sujet. Et tu es l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les voies nouvelles du géomimétisme, soigner le climat grâce au vivant » chez Odile Jacob. Alors ma première question, parce que j'ai surtout à cœur que ce soit vous qui parliez, c'est que j'aimerais que l'on définisse ce qu'on entend ou ce que vous entendez par les vivants. Voilà, de quoi parlons-nous? Peut-être Benjamin, si tu veux... Parce que Vinciane, elle vient juste de clôturer. Si on peut lui laisser une respiration. Tout est ouvert, il n'y a rien à toucher.
Rien à faire? Ah voilà, parfait. Ce qu'on entend par les vivants, c'est l'ensemble des êtres vivants qu'on a sur Terre. L'idée de ce concept, c'est, de mon point de vue en tout cas, d'intégrer l'être humain. On parlait très souvent de biodiversité. Dans la biodiversité, il y avait un peu un côté technocratique et aussi une exclusion, en tout cas quand on l'entend communément, de l'être humain. Et donc en utilisant le concept de vivant, ça permet de le réintégrer et de se rappeler que l'écologie, c'est aussi les interactions entre tous les êtres vivants, y compris l'être humain. Et donc politiquement, il y avait un intérêt à utiliser ce terme plutôt que le mot de biodiversité.
Vinciane, tu voulais compléter?
Je ne suis pas sûre que je vais compléter, mais je vais donner la perspective qui n'est pas la mienne, en fait, qui est celle... Je me suis posé la question dernièrement, tiens, mais c'est quoi être vivant? C'est quoi la différence entre être vivant et ne pas être vivant? Pas être vivant et être mort, parce que ça, c'est facile, puisque pour être mort, il faut avoir été vivant. Donc ça, c'est déjà pas une bonne définition, puisque ça n'exclut pas. Voilà. Mais il y avait une première définition qui m'a beaucoup plu, puis une deuxième... La première, c'est de la biologiste Lynn Margulis, et qui disait, quand on lui demandait « mais c'est quoi la vie ?» et j'ai trouvé que c'était magnifique, elle disait « c'est la matière devenue folle. Matter's gone wild. Folle ou sauvage. » Et je trouve que c'est tellement joli, tellement... je veux dire, c'est une biologiste, quoi. C'est tellement poétique de penser la vie comme matière devenue folle. Et donc, de ne pas essayer de faire par exclusion, mais simplement par une caractérisation. Je vais deleuzienne ici. Par la caractérisation d'une passion ou d'une manière d'être. Voilà, une matière devenue folle, c'est ça qui caractérise la vie. Et puis j'ai posé la question à Isabelle Stengers, parce que je disais, c'est joli, chez Céline Margulis, j'avais aussi trouvé des choses chez plusieurs biologistes, mais je disais, tiens, ça ne fait pas bien le contraste. Isabelle Stengers, je trouve, a été très, très juste quand elle a dit, peut-être que la caractéristique de ce qui est vivant, c'est que ce n'est pas indifférent. Voilà, ça ne peut pas être indifférent. Alors je dis, mais c'est sensible? Non, elle me dit, ce n'est pas sensible. Un cyclone, c'est sensible. Un cyclone est sensible aux conditions extérieures. Il va modifier sa trajectoire en fonction des conditions atmosphériques, en fonction de quantité de choses. Donc la sensibilité n'est pas la caractéristique du vivant. Ça, c'est génial aussi, quoi. On dirait toujours le vivant, c'est ce qui est sensible, non ? Et sont sensibles les êtres qui sont capables de changer selon les circonstances extérieures sans nécessité qu'ils soient vivants. Une roche, c'est sensible. C'est sensible à l'attaque d'un champignon, c'est sensible, c'est pour ça qu'on a de la terre, c'est sensible à, je veux dire, au vieillissement. En revanche, un cyclone, il est indifférent à ce qui entrave sa course. Ça ne change rien pour lui. Et je trouvais que c'était si joli de dire, voilà, le vivant, c'est ce qui est sensible et pas indifférent, contrairement à ce qui n'est pas vivant, qui peut être sensible, mais qui sera indifférent.
Ça commence fort. Pierre, tu... vous pouvez applaudir, hein, parce qu'il faut quand même un peu chauffer la salle. Merci.
Nous, on peut sortir, je crois.
Il y a du level, voilà. Pierre, est-ce que tu avais envie de compléter ? Tout est ouvert, il n'y a rien à toucher.
Je passe après ça. Non, puis c'est intéressant ce que tu dis. Donc, différenciation entre être sensible et être vivant. Moi, je pourrais même rajouter la notion de conscience, puisque une fois qu'on est dans le champ du vivant, on a la question de l'être vivant conscient de lui-même et puis peut-être d'autres formes de conscience, parce que si vous prenez un mycélium, donc le réseau filamentaire d'un champignon dans le sol, hein, il y en a des centaines de milliers d'espèces, un mycélium par mètre carré traite plus de bits d'informations qu'un ordinateur. Mais c'est une réception d'informations et un traitement d'informations qui est délocalisé, qui n'est pas centralisé comme chez nous avec un cerveau. Mais pardon, s'il n'y a pas une forme de conscience derrière autant d'informations traitées, moi, j'y crois pas. Donc voilà, prolonger peut-être la réflexion sur le vivant et les formes de conscience qui l'habitent. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. On touche au mystique aussi.
Merci. Avant de rentrer dans tous les savoirs et tout ce qu'il y a dans vos cerveaux concentrés, j'avais envie d'être dans une page un peu plus personnelle, à savoir quand on vient vous inviter sur une table ronde sur ce que nous apprenne le vivant, peut-être nous partager à quel moment vous avez été en lien avec ceux ou ces vivants et vous avez compris qu'ils pouvaient vous apprendre des choses. Benjamin, tu as compris que tu ouvrais le bal à chaque fois.
Je crois, oui. Ça doit être à cause de mon nom de famille.
C'est ça. Hein,
le A.
Il y en a, ils sont V, il y en a, ils
comme
sont A.
Comme à l'école. Oui, si la question, c'est à partir de quel moment on a vraiment compris qu'on allait avoir des interactions plus fortes qu'à l'accoutumée. En ce qui me concerne, je dirais que ça a démarré dans l'enfance assez tôt. Et en premier lieu, grâce aux oiseaux. Je vais le dire comme ça. Je crois que c'est un des points communs qu'on a avec Vinciane. Et donc, assez rapidement, c'est devenu non seulement un plaisir de les observer, mais je crois aussi une obsession. À la fois de chercher à les déterminer, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils interagissaient avec l'ensemble de des écosystèmes dans lesquels ils étaient présents. Moi, je viens du sud de la France, donc plutôt des écosystèmes méditerranéens à la base. Et de fil en aiguille, on ne peut pas s'en tenir simplement à l'observation des oiseaux. Je rappelle que c'est souvent un groupe très intéressant qui permet de mettre un pied dans les sciences naturelles, assez abordable, et il y a plein de formation, il y a des gens d'ailleurs ici, je ne sais pas où est Yves, mais qui organisent des formations sur l'identification des oiseaux, mais qui sont un bon moyen de s'intéresser à ce qui nous entoure, à de créer aussi des attachements, je crois que c'est important, et ensuite de se diversifier et de regarder le reste, de regarder les plantes, de regarder les insectes, et oui, c'est un bon levier, puis ensuite... plus récemment, une rencontre avec Vinciane qui l'a bouleversé ma compréhension et ma perception des oiseaux. Donc, je suis passé d'une vision assez d'un biologiste complètement basique et de base, un ornitho de base, comme on dit, à une autre approche beaucoup plus sensible grâce à Vinciane. Peut-être qu'on fera le lien plus tard.
Pierre, peut-être.
Je pense que. Ce qui nous mène là où on est aujourd'hui, c'est à la fois du sensible, à la fois du cognitif. Pour le sensible, moi, je suis un petit Normand. J'ai grandi sur les côtes du Bessin, dans le Calvados. Et quand j'étais petit, j'adorais aller pêcher à l'épuisette dans les petites mares à marée basse et tout. J'étais fan de ça. Je capturais mes petits gobies, mes petits bouquets, mes bébés sols, les trucs. Je faisais des petits enclos dans le sable et tout. C'était génial. Et puis, vers mes 10-12 ans, d'un coup, je me suis rendu compte que ces mares se vidaient à une vitesse hallucinante. Et depuis, il n'y a plus toutes ces espèces dans les mares à marée basse. Je me dis que mes enfants, qui n'existent pas encore, ne connaîtront probablement pas ça, sauf si. Voilà. Bref, donc ça, c'est pour le sensible. Et puis ensuite, plus tard dans ma vie, il se trouve que mon premier job, c'était pour le ministère des Armées. Pour l'armée française, j'étais prospectiviste en matière de risque climatique. Donc mon boulot, c'était de comprendre comment les scénarios climatiques allaient se décliner sur certaines zones. Les zones qui intéressent l'armée française, hein, donc principalement le Sahel, l'Asie-Pacifique, etc. De comprendre comment ça allait perturber les systèmes agricoles, donc les systèmes sociaux, donc les systèmes politiques, et donc comment ça allait foutre le bazar et créer un risque majeur d'émergence de conflits. Voilà, c'est ça qu'intéressait l'armée. Donc chouette, hyper stimulant comme boulot, sauf que tu prends ta petite gifle d'éco-anxiété au passage parce que tu as le nez dans des rapports scientifiques qui sont... toute la journée. Et à un moment, il faut, pour sa propre santé mentale, il faut aussi lever le nez et regarder un peu plus loin. Et c'est là où j'ai découvert, où je me suis vraiment plongé dans comment est-ce que justement les vivants peuvent nous aider à réparer le climat qu'on est en train de détruire. Et là, j'ai regagné de l'espoir et on va en parler peut-être après. Suspense.
Massiane.
En fait, moi, c'était tardif, très tardif, mais tout ce que je suis a été très tardif. J'ai une croissance lente.
À l'image de certains vivants.
Voilà, une croissance très lente et tout m'est arrivé très tard dans la vie. Mais voilà, très bien. Donc, le seul souvenir que j'ai dans tout petit moment de sensibilité, mais qui était répétitif, c'est que je me vois à 6-7 ans devant la fenêtre de la maison, du jardin dans la maison dans laquelle on habitait et j'entends, est-ce que c'est une tourterelle turque ou est-ce que c'est un pigeon ramier, je ne suis pas à l'époque capable et toujours peut-être pas maintenant. Voilà, et je dis à ma mère, je m'entends dire à ma mère, maman c'est le printemps. Mais ce que j'ai découvert par après, c'est qu'il n'arrête pas de chanter pendant l'hiver. Donc il fallait visiblement une convergence, et je parle sérieusement, il fallait une convergence de rayons lumineux, d'une certaine température, etc., pour que je puisse percevoir le chant. Ce qui donne à la fois une certaine idée de ce que c'est que la sensibilité, et je pense que c'est très juste, quoi. La sensibilité, elle ne vient pas toute seule. Il y a des éléments qui vont favoriser le fait que vous soyez sensible à certaines choses ou que vous deveniez sensible. Et puis, je n'ai pas de souvenir. Et puis, moi, j'ai fait des études de psychologie, mais très tardivement, après avoir fait de la philo, qui était à l'époque assez asséchante. Donc, je sors de philosophie bien asséchée. Et quand je découvre la psychologie, qui ne me passionne pas plus que ça non plus, je découvre l'éthologie. Et ce que je découvre dans l'éthologie, alors j'ai envie tellement de rendre le compliment à Benjamin, parce que pour moi, des gens comme lui sont tellement importants, et lui-même a été important aussi dans tous les stages qu'on fait ensemble, c'est quand Benjamin, il entend un chant d'oiseau, il dit « ça, c'est un superbe ou une superbe fauvette. Ça, c'est un magnifique, etc. » Et chaque oiseau devient une espèce de d'unique être au monde et qui est hyper talentueux. Et je trouve que ça, c'est ce que j'ai trouvé chez certains éthologistes. Et je pense que l'amour, c'est comme certaines choses, comme certains sentiments, comme l'intelligence, etc. Ça peut contaminer. Je veux dire, si vous rencontrez des gens qui aiment profondément certains êtres et qu'ils vous en parlent et qu'ils vous en parlent bien, l'amour va finir par vous tomber dessus aussi. Et moi, je suis tombée amoureuse de... Alors, pas des vivants en général, de certains vivants, mais qui avaient la caractéristique d'être vivants. C'était des oiseaux, c'était un chien, enfin une chienne, c'était... bref, c'était des animaux particuliers qui se sont accumulés comme ça avec les années, simplement j'étais contaminée par l'intérêt passionné que m'avaient inoculé des gens comme Benjamin.
Merci Benjamin de tout ça. On peut l'applaudir, hein, c'est... On va rentrer un peu plus dans le dur. Pierre, peut-être nous parler de géomimétisme et nous dire ce que ce terme revêt et en quoi il nous permet d'apprendre du vivant.
Allez, c'est parti. Donc, c'est un néologisme, hein, le géomimétisme. C'est une contraction entre géo, donc le système Terre, le climat, et biomimétisme. Moi, ça fait longtemps que la question du biomimétisme me passionne. Le biomimétisme, c'est comment est-ce qu'on s'inspire du vivant pour tantôt nos procédés industriels, tantôt nos manières de fabriquer des choses, tantôt nos systèmes d'organisation, Donc il y a différents niveaux en biomimétisme. Par exemple, le biomimétisme de niveau 1, c'est comment est-ce qu'on s'inspire de l'intelligence qu'on trouve dans les formes du vivant, etc., pour faire des objets beaucoup plus performants. Si on prend l'exemple de l'ormeau, vous savez que la coquille de l'ormeau, donc ce coquillage qu'on trouve dans l'Atlantique, à épaisseur égale, elle est aussi solide que le blindage avant du char Leclerc. Alors que la coquille de l'ormeau, c'est de l'aragonite et un petit peu de colle organique. En gros, c'est du calcaire et du sucre. Comment c'est possible ? Eh bien, parce que la coquille de l'ormeau, c'est un empilement de petites strates de calcaire très très fines, mais qui fait que quand il y a un choc dessus, l'onde de choc, elle est complètement diffusée dans toute cette complexité de forme, et elle est complètement, absorbée, et ça ne crée pas de dégâts. Donc c'est quand même d'autant plus incroyable que l'ormeau, il fonctionne, il fabrique tout ça à température ambiante, et avec des composés qui sont omniprésents autour de lui, calcaire, carbonate de calcium, etc. Donc, hyper intéressant, hein, ce biomimétisme de niveau 1 pour, pourquoi pas, concevoir des objets qui sont sans pétrochimie, qui sont sans métaux, etc., etc., et qui nous permettent d'avoir une industrie demain qui soit réellement durable. Il y a plein d'exemples, bref, on pourra en parler si vous voulez. Puis ensuite, on a le biomimétisme de niveau 2. Ça, l'idée, c'est, OK, le vivant, il produit toutes ces choses incroyables à température ambiante, avec des conditions, somme toute, assez inspirantes. Hein. C'est que la diatomée, par exemple, donc c'est la moitié des espèces de plancton dans les océans, la diatomée, donc elle a une petite frustule, une petite coquille en verre, en silicium, et donc elle construit ce verre à température ambiante, même en profondeur, à des températures de 4 degrés, par exemple, là où nous, on est obligé de chauffer de la silice à 1500 degrés pour créer des pattes de verre, etc. Donc comment est-ce que la diatomée réussit ça? Et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour faire des bioréacteurs demain qui remplacent les hauts fourneaux pour créer du verre sans carbone, et demain tout un tas d'autres applications industrielles. Donc ça, c'est biomimétisme de niveau 2. Et puis le biomimétisme de niveau 3, là, c'est comment est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, on fait en sorte que les différentes usines, les différents lieux de production, les bâtiments, etc., que les déchets des uns soient la matière première des autres. Donc c'est l'économie circulaire, en fait. Et puis... le géomimétisme, cette fois-ci, quelque part, c'est le biomimétisme de niveau 4. C'est le biomimétisme qui s'intéresse aux puits naturels de carbone. C'est-à-dire qu'on a des écosystèmes, hein, quand on dézoome, des forêts, des zones humides, la pompe biologique océanique, hein, les animaux marins, les sols agricoles, en agroécologie, tout ça, ça capte du carbone, ça transforme du CO2 en matière organique à travers la photosynthèse. Et puis cette matière organique, en forme stable du carbone, in fine, à travers différents processus biologiques, le rôle des animaux est clé là-dedans, enfin bref. Donc, l'idée du géomimétisme, c'est comment est-ce que tout ça fonctionne, et si jamais on renforçait ces puits naturels de carbone, hein, si on reforestait sur des surfaces maximales potentielles en s'inspirant du vivant, donc en plantant différentes essences d'arbres, en faisant les choses bien, si on passait intégralement à l'agroécologie, si on arrêtait la surpêche, si on plantait des algues, etc., etc., eh bien, combien de CO2 ça pourrait absorber et quelle part du réchauffement climatique ça pourrait limiter. Donc, c'est ça le fond de mes travaux, et peut-être qu'on en parlera. Mais c'est ça le géomimétisme. Et, en fait, c'est beaucoup. Vous verrez que c'est une partie significative du problème climatique qu'on peut en partie réguler grâce à la biodiversité, grâce au vivant.
Benjamin, j'aimerais que tu nous parles de cet ADN fantôme ou ADN environnemental qui a... je pense, révolutionner la vie d'un certain nombre de scientifiques, et qui commence aussi à révolutionner maintenant la société civile, qui commence à en entendre parler.
Oui. Depuis à peu près le XVIe siècle, donc il y a un naturaliste qui s'appelle Pierre Belon-Dumans, c'est un Français. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que cocorico, en fait, on est aussi très bon en sciences naturelles, parce qu'on a été assez pionniers. Et jusqu'à il y a quelques années... on a utilisé pratiquement toujours les mêmes méthodes d'observation de la nature, qui étaient des méthodes directes d'observation, avec une paire de jumelles, une loupe, ou de collecte. Il y a eu énormément de collectes d'êtres vivants pour les mettre en collection. Et donc ces méthodes-là, elles ont été employées pendant plusieurs siècles, et depuis maintenant le début des années 2000, parce que c'est là que ça commence à apparaître, une autre technique émerge qui s'appelle l'ADN environnemental. Et en fait, c'est très simple, c'est quoi ? C'est que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, laissent à un moment donné des traces d'ADN dans leur environnement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient essayer de les trouver On vient les collecter et on les identifie ensuite en laboratoire. Et ça, ça a démarré en 2005 à peu près, au travers d'une espèce qui s'appelle la grenouille taureau. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une énorme grenouille qui fait pratiquement 1 kg. Hein. Les femelles, elles vont jusqu'à 950 grammes, je crois que c'est le record, qui est arrivée dans les années 60 en France, qui émerge des États-Unis, qui a été importée et qui a rapidement colonisé l'ouest de la France. Et donc, il y a une équipe de chercheurs qui s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut travailler sur cette espèce d'amphibien. Et peut-être qu'un moyen de l'étudier, c'est pas d'y aller avec, tu parlais tout à l'heure d'y aller avec une épuisette, de faire différemment, de faire un prélèvement d'eau et de regarder si on va pas retrouver à un moment donné des cellules, quelque chose que vont laisser les grenouilles. Donc ça a été expérimenté en laboratoire à différentes conditions. Et là, effectivement, la première preuve concrète a été faite de la persistance de l'ADN dans l'eau, dans l'environnement. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça ouvre la possibilité de le faire sur d'autres espèces. Et là, ça s'est poursuivi sur l'ensemble des amphibiens avec une démonstration assez claire qu'on était capable, avec le prélèvement de quelques litres d'eau. Donc à l'époque, c'était 2-3 litres pour faire vraiment un titre expérimental. Aujourd'hui, on est plutôt sur une dizaine de litres, 30 litres en fonction des espèces qu'on recherche. Donc on va aller au bord d'une mare, au bord d'une rivière, au bord d'une mer. On va faire un prélèvement d'eau, ça va passer dans un filtre. Et l'ensemble de ces traces d'ADN vont rester à l'intérieur de ce filtre. Et en laboratoire, on va réussir à l'extraire, à l'amplifier et à identifier les espèces qui étaient présentes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver pas seulement ce qu'on cherchait, mais on va aussi retrouver tout le reste. Et c'est là qu'il y a une révolution qui s'opère. C'est qu'on va observer aussi l'ensemble des organismes qui nous étaient totalement inaccessibles jusqu'à présent, c'est-à-dire 95% des êtres vivants, parce que 95% des êtres vivants font moins de 5 mm. Donc le naturaliste que je suis et qui observait les oiseaux, là d'un coup se met à observer des bactéries, des fonges, des champignons, tout un tas d'organismes qui étaient totalement invisibles pour l'œil nu. Et l'autre point assez intéressant là-dedans, je ne sais pas si vous le savez, mais en réalité, malgré un démarrage, on va dire, depuis le XVIe siècle des inventaires naturalistes, on ne connaît que 20% du vivant. Donc dit autrement, 80% du vivant nous est totalement inconnu, avec des disparités fortes en fonction de si on cherche les oiseaux, on est à un niveau de connaissance qui est bien plus élevé, mais quand on va sur ces organismes plus petits, là on est encore sur une quantité de découvertes très importante à faire. Et donc il y a une urgence à accélérer ces inventaires de biodiversité, et c'est ça que vient apporter l'ADN environnemental, c'est une accélération des inventaires de biodiversité.
Et moi, comme philosophe, je voulais juste ajouter quelque chose dans ce que tu fais qui m'a, je veux dire, quelque chose par exemple qui permet aussi de connaître plus de vivants. Tu me corriges si je me trompe. Hein. Voilà, très bien. C'est que dans ces organismes invisibles à l'œil nu, en fait, beaucoup aussi étaient inconnus parce que quand on les prélevait, par exemple, dans ce qu'on appelle une goutte d'eau, etc., qu'on les mettait en boîte de pétri, ne survivaient que ceux qui étaient capables de vivre de manière autonome. Et donc tous les êtres qui se maintiennent dans l'existence, dans des relations d'interdépendance fortes entre eux, en fait, on ne les voyait pas dans les boîtes dans les cultures, etc. Et donc, en fait, ce qu'on croyait savoir des vivants, c'était on savait des vivants qui n'avaient pas beaucoup besoin des autres et qui pouvaient vivre tout seuls. Et tous ceux dont la vie reposait sur quantité d'autres vies, en fait, ils échappaient complètement au radar du fait justement que les cultures biologiques ne leur permettait pas d'être avec ceux avec lesquels ils s'étaient associés. Et je trouve que c'est ça aussi qui est joli dans l'ADN environnemental. C'est comme c'est un peu un flash sur un moment T, c'est ça. Et donc, on a beaucoup plus de monde, d'une certaine manière, qui est pris dans le dispositif à témoigner de l'existence.
Ouais, c'est exactement ça. C'est là où, en fait, ça va bien plus loin que la simple détermination des espèces. Hein. Ça ouvre une manière différente d'observer le monde qui nous entoure et c'est aussi ça qui est intéressant et que tu viens de développer. Ouais, tout à fait.
Tu peux peut-être nous parler du requin en Méditerranée, parce que je trouve que c'est un exemple qui est assez chouette.
Oui, en fait, parmi les découvertes qu'on peut faire, au-delà du fait, j'ai pris cet exemple-là des 20%, il y a un chercheur australien qui s'appelle Michael Statt, pour vous donner une idée. Il a pris un litre d'eau, et dans ce 1 litre d'eau, il a trouvé à peu près 25 millions de séquences d'ADN. Et dans ces 25 millions, il n'y en a que 14% qu'on a été capable d'assigner à quelque chose de connus. Donc dit autrement, le reste était totalement inconnu. Donc il y a ces espèces qui passent au travers et qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi toutes ces espèces, qu'on pensait disparu et qui en fait n'avait pas complètement disparu. Et l'exemple que tu nous donnes, c'est le requin ange. Et donc il est, il se porte pas très bien comme beaucoup de requins en zone méditerranéenne. Donc on le pensait disparu et il a été retrouvé au large de la Corse grâce à cette méthode. Alors au début, bien sûr, ça entraîne un certain nombre de doutes. Est-ce qu'il y était vraiment ? Est-ce que vous êtes pas trompé ? Est-ce qu'il y a pas des problèmes de contamination ? Et puis des plongeurs y sont allés, l'ont observé et ont permis de confirmer qu'effectivement il était bien présent. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs endroits au large de la Corse où il est présent. Petite anecdote aussi au passage, hein, la baie des Anges qu'on connaît à Nice porte ce nom-là grâce au requin, le requin ange. Et donc on voit bien que notre manière d'observer le vivant va aussi conditionner notre manière de cohabiter avec lui, puisqu'on ne savait pas qu'il existait, ou en tout cas on ne pouvait pas le savoir parce qu'on n'avait pas les bons outils. Et les bons outils en question pour l'étude des requins, je ne sais pas si vous connaissez un peu les techniques, mais on utilise en général une perche qu'on va mettre au fond de l'eau avec un appât, et vous avez un piège photo. Et donc quand les requins se rapprochent de l'appât, le piège photo se déclenche, et donc ça vous permet de le photographier et ensuite de l'identifier et de savoir qui vit dans le secteur. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des requins, dont le requin ange, qui adoptaient non pas un comportement d'attraction vis-à-vis de cette proie, mais un comportement plutôt repoussoir. Ça avait tendance à le faire partir. Et donc, la méthode n'était pas du tout adaptée pour pouvoir faire l'inventaire de ces espèces. Donc, le choix des méthodes, encore une fois, conditionne complètement notre manière de percevoir notre environnement.
Merci, Benjamin. C'est une question que j'avais pour Vinciane et j'attendais le bon moment. Moi, je trouve que dans ta relation avec l'éthologie, en fait, tu mets clairement en avant que notre compréhension du vivant dépend de notre posture, de nos questionnements et de notre capacité, finalement, à être à l'écoute et à observer. Et je veux bien que tu nous partages autour de ça, parce que je trouve que c'est vraiment le grand fil rouge de tous tes travaux. C'est la capacité que tu as à nous rendre compte que c'est ça qui fait la différence, en fait.
Alors, je peux prendre un fil parmi tous ceux qui sont... Enfin, je veux dire,
dans ta pelote.
Dans ma pelote, parce que ça m'est arrivé plein de fois de me dire, tiens, mais ici, il y a quelque chose qui compte. Voilà, c'est ça, en fait. Ici, il y a quelque chose qui compte et qui va vraiment être déterminant. Et je prends ma toute première recherche, parce que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ma question. Voilà. Enfin, ma question plutôt, j'ai trouvé la façon dont j'allais chercher des réponses à une même question, qui est celle-là, c'est... Qu'est-ce que ça change qu'on étudie l'animal de telle manière ou de telle manière ? Et en fait, moi, j'avais lu des articles sur un oiseau qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, le Crateropecaillé, qui est un passereau d'Arabie. J'avais lu un article d'un certain Ahmad Zahavi, qui était un chercheur, je dis était parce qu'il est décédé il y a quelques années d'ici, qui est un chercheur qui étudiait ce passereau d'Arabie dans le désert du Negev en Israël. Et j'avais été très intriguée, donc on est début des années 90, parce que ce chercheur ne parlait pas du tout de l'oiseau comme les autres chercheurs parlaient de leurs oiseaux. Les chercheurs qui travaillaient, c'était des chercheurs dans un domaine particulier. Je découvrirai plus tard que dans d'autres domaines, je n'aurais pas été confrontée à une telle uniformité. Mais les chercheurs qui travaillaient sur l'altruisme chez les oiseaux dans les années 80, en général, utilisaient toujours tellement des théories qui étaient tellement fortes et pesantes qu'ils décrivaient tous leurs oiseaux, quels qu'ils soient, jais bleu du Mexique, jais bleu de Floride, jais du Mexique, guépier à front blanc, corneille grise de Lausanne, etc. Et je cite de quelques-uns, qui les décrivaient exactement de la même manière, que je n'aurais pas pu distinguer, si ce n'est par le nom, dans ce que je lisais, la particularité de chacun de ces oiseaux. Parce que la théorie était tellement prégnante que cette théorie, finalement, faisait qu'on n'observait que certains comportements qui répondaient à cette théorie. Et que tout le reste des oiseaux était oublié. Enfin, tout le reste, tout ce qui aurait pu faire l'originalité, mais n'était même pas observé. Enfin, ou si c'était observé, on n'en parlait pas. Et Zahavi, lui, pas du tout. Lui, ça le foutait éperdument de cette théorie. Enfin, il s'en foutait à moitié. Mais il décrivait un oiseau absolument fantasque, qui se faisait des cadeaux pour augmenter le prestige, qui se disputait quand un dominé faisait un cadeau à un dominant, il se passait un mauvais quart d'heure, qui se disputait pour être sentinelle, pour faire la garde. Enfin, des trucs mais absolument invraisemblables, qui dansaient tous ensemble le matin au lever du soleil pour éprouver la fiabilité de leur partenaire. Si vous êtes capable de prendre ce risque de danser avec moi au lever du soleil, alors que tous les prédateurs nocturnes sont en train de rentrer, les diurnes sont en train de sortir, c'est que vous êtes vraiment des partenaires fiables. Je t'ai dit, j'avais jamais lu, même à propos des primates, j'avais jamais lu ça. Donc je m'étais dit, il y a quelque chose de bizarre chez ce mec-là, ou chez cet oiseau. Et donc j'ai écrit à M. Zahavi, je lui ai dit, est-ce que je peux venir voir avec vous votre oiseau ? Et il a répondu, oui, monsieur Després, venez au printemps. très, très patriarcale, l'ornithologie. Et donc, Monsieur Després est allé au printemps voir les oiseaux. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai commencé à observer avec lui. Et puis, il y avait d'autres chercheurs qui étaient sur le terrain, parce que c'est un terrain très accueillant. Les ornithologues sont souvent, d'ailleurs, très accueillants. Je veux dire, il y a des vrais échanges de « viens chez moi, viens observer mes petits oiseaux avec moi ». Comme c'est patriarcal, pas de danger. Et c'est pas bien voir mes estampes japonaises, comme on disait quand j'étais jeune. Et donc, je suis allée voir. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en allant observer avec Zavi et avec les autres chercheurs, dont un sociobiologiste de Cambridge, Oxford, dont une sociobiologiste des universités américaines, j'ai pu voir ce qui changeait et qui faisait que Zavi pouvait voir certaines choses chez ses oiseaux que d'autres ne pouvaient pas voir de la façon dont ils posaient les questions. Et une des choses, par exemple, moi qui m'a vraiment épatée, c'est un jour, un des premiers jours qu'on est sur le terrain, on part, il est 3h30 du matin, on est au printemps, donc il faut arriver avant que le soleil ne se lève, on prend, je ne sais plus, la voiture ou le vélo, on arrive sur, il dit, on va observer le territoire de machin chose, de ce groupe-là. Ils sont une vingtaine d'individus sur ce territoire. Et puis on arrive à la limite du territoire, on laisse, je ne sais plus si c'est la voiture ou le vélo. Et puis je dis, on va devoir marcher pas mal quand même pour les retrouver, on ne sait pas où ils sont. Pas du tout, qui me disait. Il se met à siffler. Il dit, attendez, vous allez voir. Et 5 minutes après, qu'est-ce qu'on voit? Les cratérops qui arrivent, il dit, et on ne sait pas où ils sont. Si on veut les observer, c'est eux qui vont venir. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc les cratérops viennent. Et qu'est-ce qu'il fait, Zavi? Il se met accroupi. Il sort des vieux morceaux de pain de sa poche et il commence à leur distribuer du pain. Les autres chercheurs, évidemment, quand je leur parle de ça, ils me disent, oui, on sait bien qu'il fait ça, c'est scandaleux, on ne doit pas nourrir les animaux, c'est quand même pas, etc., etc. Et en plus, c'est de l'approvisionnement, comment est-ce qu'il peut avoir une version scientifique objective par rapport à... N'empêche que sa version scientifique apprivoisée et non objective a fait du cratérop un oiseau qui a permis de découvrir énormément de théories qu'on ne connaissait pas et avec lesquelles tous les chercheurs, enfin beaucoup de chercheurs aujourd'hui adhèrent. Du style, pourquoi... Allez, je pense la dernière que j'ai lue à propos du cratérop qui venait à vie, c'est quand il y a un prédateur qui s'amène près du cratérop. Les cratéropes sont des oiseaux qui vivent beaucoup au sol. Donc, ils sont dans les acacias et surtout au sol. C'est plutôt des oiseaux très terrestres. Un prédateur arrive, il y a toujours un cratérop qui fait le sentinelle. D'ailleurs, il dispute pour pouvoir le faire. Il se met à gueuler. Et Zavi se dit, mais pourquoi est-ce qu'il gueule comme ça? Ses copains sont à 1 mètre ou 2 mètres de lui. Pourquoi ne pas être discret? En plus, c'est idiot, il attire l'attention du prédateur sur lui. Il pourrait faire simplement toutou, toutou, toutou. Les copains, attention. Non, c'est attention, il est là, etc. Et Zavi a fini par faire l'hypothèse. En fait, il prévient pas du tout ses copains. Il dit au prédateur, je t'ai vu, va voir plus loin. Je t'ai vu, on est au courant. Il dit, pourquoi aboyer quand on peut parler tout bas, si ce n'est parce que la personne à qui on s'adresse n'est pas à proximité? Et c'est génial parce que maintenant, il y a plein de chercheurs qui sont d'accord avec cette hypothèse que les cris d'alarme sont parfois pour prévenir les autres, mais qui sont de toute façon en sécurité, ils sont à couvert, mais c'est des relations interspécifiques. Et c'est de dire, perds pas ton temps, mon gars, et reste quand même pas trop au-dessus parce que tu nous stresses.
Pierre, quand on échangeait en vue de cette table ronde, tu me disais, dans le vivant, on fait toujours avec ce qui est vivant. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça pourrait nous inspirer?
Il faut déjà que je réponde à cette question. Et en plus, après Vinciane et Benjamin, qui sont quand même des super conteurs d'histoire. Donc, le challenge... C'est le bourbier, cette conférence, en fait.
Je suis désolé, il faut se plaindre à Dominique.
Ouais. Je n'y manquerai pas. En fait, tu peux préciser ta question.
Ma question, elle est toute simple. Tu m'as dit, c'est important de partager un fait que... Dans le vivant, on fait ce qui est avec là. En fait, on ne va pas chercher autre chose. Oui. Là où l'humain, et je pense que c'était ça ton parallèle, si je me souviens bien de notre échange de lundi soir tardif, c'était le parallèle avec le fait que nous, on n'est pas capable justement de faire avec ce qui est là et qu'on est toujours à aller chercher.
Ouais, bah, ça va nous permettre de reparler un petit peu d'industrie. Mais effectivement, quand vous voyez le tableau de Mendeleïev, hein, donc le tableau classification périodique des éléments, donc, en fait, les éléments les plus abondants sont aussi ceux que le vivant utilise le plus. Voilà. Quand vous faites de la photosynthèse, par exemple, vous combinez des petites molécules de CO2, d'eau avec l'énergie du soleil, vous faites du glucose. Le glucose, c'est des chaînes d'hydrogène et de carbone, grosso modo. Donc, c'est des éléments qui sont très, très présents. Et à partir de ce glucose, bah, les plantes, elles vont les transformer en tout ce qu'ils font, le bois, l'amidon, les fruits, etc. Enfin bref, le sucre, la base des chaînes carbonées. Et donc ça, c'est omniprésent. C'est des éléments qui sont omniprésents. Et le vivant sait raffiner ces éléments jusqu'à donner des matériaux techniques dont les propriétés sont, sont assez folles, en fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire toute une gamme de plastiques, y compris des plastiques souples, durs, transparents, tout ce que vous voulez, à partir de simplement d'algues que vous mettez dans des bioréacteurs. Hein, vous faites ce qu'on appelle des micro-fermentations. Donc vous éduquez des bactéries à transformer du sucre en à peu près n'importe quoi, parce que la bactérie, elle a son petit logiciel, elle sait faire ça, et vous sortez grosso modo toute la gamme dont on a besoin pour faire tous les objets qui nous entourent. D'ailleurs, il y a plein d'histoires qui montrent qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Hein. Je me replongeais dans des trucs... Par exemple, vous savez qu'en 1941, il y a Ford qui sort une voiture qui est presque intégralement faite en chanvre. Donc la coque de la voiture est en plastique de chanvre couplé de fibres de chanvre. Les essieux, les pneus sont en gomme de chanvre, ça roule à l'huile de chanvre. Il y a que, grosso modo, le châssis qui est en métal, et basta, parce qu'il fallait préserver le métal pour les tanks. Et en fait, cette voiture était ultra légère et fonctionnait très très bien. Bon, après la guerre, forcément, vous avez tout le complexe militaro-industriel qu'il faut convertir en industrie civile. Donc, on se retrouve avec des capacités de production d'acier complètement folles, et donc on va faire des voitures en tôle. Mais... On savait faire du matériau biosourcé depuis très longtemps. Et ça, c'est omniprésent. Nous, la France, on importe 50 millions de tonnes de pétrole brut chaque année et on exporte 50 millions de tonnes de matières premières agricoles. C'est pas ce qu'on produit, hein, c'est ce qu'on exporte. Demain, le but du jeu, ça va être de transformer cette matière organique en à peu près tout ce qu'on a besoin, y compris des carburants. On sait faire ça très bien. Aujourd'hui, si vous mettez une tonne de céréales, il ne faut pas utiliser des céréales pour ça, mais dans un bioréacteur, vous pouvez en sortir à peu près 200 litres de biocarburant, mais demain on mettra des algues. Hein. C'est que si vous faites sécher une algue, la moitié de son poids c'est de l'huile. Donc c'est beaucoup plus oléagineux que toutes les plantes terrestres, et à partir de cette huile, on fait des biocarburants beaucoup plus facilement. Donc c'est débile d'utiliser des terres arables pour faire ça. Mais demain, nous on a des littoraux qui se prêtent beaucoup à la culture d'algues brunes, hein, de laminaires. Demain, on peut pousser ces nouvelles filières-là. Et encore une fois, bah voilà, le vivant, il nous apprend à faire avec ce qui est omniprésent. Aujourd'hui, votre industrie électronique, elle utilise à peu près 80 éléments du tableau périodique. Ça n'est pas utile. Voilà, il y a ne serait-ce que 30 ans, cette même industrie électronique en utilisait à peu près une quarantaine, moitié moins. Comment ça se fait qu'on est allé... On a besoin de zirconium pour optimiser tel type de circuit. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens si on pourrait faire avec beaucoup moins d'éléments et donc être en capacité de recycler ça beaucoup plus facilement. Sauf que le capitalisme a ses lois intrinsèques que le grand-père Carlito Marx avait bien défini. Mais en fait, le capitalisme a besoin de s'expandre constamment et de créer des nouvelles industries qui mobilisent des capitaux. Et donc, quand vous avez 80 éléments dont vous avez besoin pour vos industries, bah c'est plutôt 40. Vous avez 40 nouvelles filières, 40 nouvelles chaînes de production, donc avec des mines, des usines, des trucs, à sortir de terre pour rien. Donc ça va vous permettre d'investir des capitaux, d'élargir progressivement le marché, de faire plus de PIB, etc. Donc c'est des lois intrinsèques du système qui ne sont pas forcément pertinentes sur le plan technique, parce qu'demain, on pourra faire aussi de l'électronique avec de l'organique, hein, ça, voilà. Qui permettent au système, sans conscience du système, mais de croître. Voilà. Il faut sortir de cette logique-là.
Tu voulais rebondir, Benjamin ? T'as pris le micro, je sais pas.
Pas du tout. Ouais, non.
Alors moi, j'avais envie.
Je me suis dit que ça allait être mon tour. Donc,
ouais, comme tu veux. Sinon, on va chez Vinciane. Mais il y a un lien entre vous deux. Avec Alain Damasio, vous avez créé l'école du ou des vivants, je ne vais pas dire de bêtises. Et pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a besoin de nous reconnecter aux vivants ?
Si tu me permets, je vais faire une légère digression.
Mais c'est on ce que arriver. Tu veux, on est très open ici.
En fait, Vincent, tout à l'heure, t'as parlé d'attachement en disant que c'était problématique parce que Zahavi nourrissait ses crétarops. Et donc, ce qu'on lui reproche, c'est ça, c'est qu'il a créé volontairement un attachement avec les oiseaux qu'il allait étudier. Et ma petite digression, elle est là, c'est que cette année, il y a une équipe de chercheurs chinois qui a travaillé sur l'hirondelle rustique. Et vous connaissez tous l'hirondelle rustique, j'imagine. Vous savez que ça niche sur des maisons, ça fait ses petites constructions. Et ce qu'ils ont montré et que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que les hirondelles avaient créé un attachement auprès des propriétaires des maisons. Et comment est-ce qu'ils ont montré ça? Ils ont montré ça parce qu'ils ont remarqué que lorsque le propriétaire de la maison s'avançait, il y avait une distance de fuite des oiseaux qui était bien inférieure que lorsque c'était un étranger qui s'approchait de la maison. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que cet attachement, il se fait même lorsque c'était une résidence secondaire, c'est-à-dire que lorsque les habitants n'étaient quasiment pas présents, qui venaient une fois tous les mois ou juste pour les vacances, l'hirondelle se comportait exactement de la même manière. Et donc le visage des humains qui sont dans cette maison était complètement perçu par les hirondelles. Ils avaient réussi à l'individualiser et donc de créer un attachement invisible que nous, on n'est a priori pas en capacité de voir. Et donc cette critique de l'attachement que tu viens d'évoquer, je trouve qu'elle peut aussi prendre une autre forme, parfois que les ornithologues ne voient pas en réalité.
Vous avez... T'as vu ce truc-là avec les corbeaux à Londres, où t'as une équipe d'Harvard, ils sont divisés en deux groupes. T'as un groupe de chercheurs qui traitait bien les corbeaux qu'il y avait sur le campus, et un autre groupe qui les maltraitait, qui les faisait fuir, qui les harcelait. Et en fait, le groupe qui maltraitait les corbeaux, en fait, se sont fait harceler par les corbeaux en retour, mais y compris quand ils étaient dans des zones de Londres totalement différentes. C'était pas à Londres ? Ah bah oui, mais c'est parce que c'est à Harvard. Et donc c'est comme si des corbeaux totalement différents, c'était passé le mot de eux c'est des chieurs, allez-y, allez les harceler quoi. C'est...
Et t'as Frédéric Giguet qui montre un peu la même chose, je pense que t'allais rebondir là-dessus aussi.
Non, j'allais rebondir sur Laurent Tillon, mais je rebondirai après.
Ah ok, et qui montre aussi ça, c'est assez marrant parce que Frédéric Giguet étudie les corneilles noires à Paris, les bagues, etc. Et donc ce qu'il explique, c'est que les corneilles noires ont développé un cri spécifique pour mentionner que lui arrive, et même en se déguisant, elles le reconnaissent, c'est-à-dire qu'il met un masque, il met une moustache, etc. Et donc il se fait quand même griller. Et ça, c'est, je trouve, assez fascinant. Donc, cette question de l'hospitalité d'un visage et de ce qu'elle renvoie, je pense que c'est intéressant d'en prendre conscience. Et là, ça va faire le lien avec ta question. C'est aussi ce qu'on essaye de faire à l'École des vivants. À l'École des vivants, ce qu'on essaye de faire, c'est recréer une culture du vivant, hein, selon un des textes que vous avez peut-être lu, qu'a écrit Baptiste Morisot, le philosophe du vivant dans Social Terre, où il parle de cette culture qu'il faut réussir à réintroduire un peu comme on a. Bon, particulièrement en Savoie, une culture du fromage par exemple, ou une culture du jazz ou... et donc on devrait avoir cette culture du vivant, et donc à l'école des vivants, on essaie de retrouver ça au travers de stages. Donc il y a un stage qu'on fait par exemple avec Vinciane et Floriane aussi, et où on va déployer des concepts comme on vient de le faire là, mais pas seulement. Il y a toute une narration autour de ça, il y a des exercices, on essaye de faire passer des affects, des percepts, et qui permettent, normalement, à la fin du stage, jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché, de commencer à tisser ces relations avec les non-humains, d'en prendre conscience. Et l'exemple que je viens de faire en est un peu l'illustration et les discussions qu'on peut avoir. Donc, à titre personnel, je joue aussi le rôle de l'ornithologue de base, et puis Vinciane vient compléter ou, au contraire, apporter des éléments nouveaux sur la perception qu'on peut avoir sur les oiseaux.
Ce serait chouette qu'on parle un peu des oiseaux, et c'est vrai que le chant d'un merle t'a inspiré à habiter en oiseau. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, les oiseaux? Enfin, en tout cas, toi, qu'est-ce qu'ils t'ont amené à comprendre?
En fait, j'ai énormément de difficultés avec la notion de modèle, etc. Et donc, je sais que ce n'est pas du tout parce que tu me connais bien, que je te connais bien aussi, que ce n'est pas le sens que tu as posé une question de façon à ce qu'elle reste très ouverte. Donc, je vais la fermer un petit peu en disant, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? honnêtement, pas grand-chose. Et c'est volontaire qu'il n'ait pas, enfin, je vais dire par là, c'est volontaire qu'il n'ait pas grand-chose à nous apprendre. Pourquoi ? Parce que, comment le dire ? D'une part, parce que quand les animaux deviennent des modèles pour l'humain, c'est très souvent par un tour de passe-passe. Alors, je parle des modèles psychologiques ou sociologiques. Par exemple, je prends un exemple très, très simple, un peu trop simple, mais comme ça, ça va vite. Si, par exemple, pendant très longtemps, les chercheurs ont vu de la hiérarchie chez les primates, par exemple chez les babouins, ah ouais, il y a un dominant, et c'est ça comme ça que le groupe reste stable, qu'il n'y a pas des conflits, hein, parce qu'on sait bien qui est le dominant, qui est le dominé, bon, on ne se dispute plus trop là-dessus. Ben voilà, et c'est comme ça chez les humains, c'est une organisation naturelle, vous voyez comment on y arrive, quoi. Et en fait, les chercheurs qui étaient des chercheurs quand même, qui venaient d'université, où ils étaient quand même très préoccupés d'hierarchie, où ils étaient dans une compétition féroce avec leurs collègues, quand ils arrivaient sur le terrain, ils disaient, ah oui, il y a des dominants, ils sont comme ça, et voilà, ils sont toujours en compétition, les babouins et tout. Et donc, on a pensé, en partie, je ne dis pas totalement, mais que les chercheurs accentuaient certaines caractéristiques chez les animaux parce qu'ils y voyaient leurs propres caractéristiques sociales. Et puis après, ils revenaient en disant, vous voyez, la hiérarchie, c'est naturel chez les humains. Hein ? Vous voyez un petit peu le genre de message politique, comme quand Franz de Waal, que j'adore par ailleurs. Enfin, il est décédé, donc on ne dit pas de mal des morts, mais quand même, déjà quand il était vivant, j'en disais du mal, donc je ne peux pas m'arrêter. Mais j'adorais Franz de Waal parce qu'il a eu des intuitions de génie, des idées vraiment, mais il avait en plus une espèce de sagesse extraordinaire. Mais quand il disait que les mâles sont naturellement chez les chimpanzés plus politiques et les femelles naturellement plus sociales, moi je ne peux pas m'empêcher de penser gloup, quoi, parce qu'il dit, ah ben ouais, mais on peut essayer de socialiser les femmes et les hommes différemment, mais c'est ça le fond de la nature humaine. Donc j'ai une méfiance profonde pour l'idée de modèle, vous comprendrez pourquoi. En revanche, ce qu'ils peuvent nous apprendre, je pense que c'est ce que l'anthropologie nous a appris. C'est-à-dire quand les anthropologues ont commencé à revenir au 19e siècle en Europe, après des premières étapes de traumatisme et de choc devant la manière dont les prétendus sauvages s'organisaient, les Européens ont fini quand même par comprendre que, par exemple, il y avait d'autres formes de mariage, d'autres formes d'honorer les morts, d'autres formes de manger, d'autres formes de façon de concevoir la filiation, et que notre modèle à nous était un modèle culturel parmi d'autres. Ce qui nous paraissait comme une évidence, que bien sûr les couples c'est toujours un monsieur et une madame, et pas deux monsieur et une madame, ou trois madame et un monsieur, ou trois monsieur et trois monsieur. Enfin, je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'on a de faire un couple, ou bien une madame et ses frères, parce que ça peut aussi faire famille, que être l'enfant d'eux, il y a plein de manières d'être l'enfant d'eux, par adoption, par filiation, par filiation compliquée, co-mariage et des choses comme ça. Et les Européens sont restés sidérés, mais ont compris que leur manière de vivre n'était pas l'étalon, n'était pas une évidence, n'avait rien de naturel, que c'était des choix culturels qui avaient été. Mais je pense que les oiseaux peuvent nous apprendre des choses comme ça. C'est-à-dire que nos manières de nous organiser, de faire territoire, tout ça, ils peuvent le remettre en question en nous apprenant que la très grande diversité des manières de vivre dans le vivant nous fait penser que ce qui est aurait pu être autrement. Et pour moi, ça, c'est une vraie leçon politique. C'est de penser que ce qui est, si c'est vrai que c'est très lourd, très dur, et que les époques que nous vivons ne sont pas favorables au changement, mais ce qui est aurait pu être autrement. Et quand on pense que ce qui est aurait pu être autrement, donc ce n'est pas une évidence qui s'impose, ça pourrait vouloir dire aussi que ce qui est pourrait être autrement.
Quand tu prends le micro, Benjamin, je sais que tu as envie de dire quelque chose.
J'avais juste anticipé cette fois. Non, bah du coup, maintenant que je l'ai, dans ce qu'ils nous apprennent, en tout cas, moi, je vais parler pour moi uniquement, ce qui me marque le plus à chaque fois, c'est se rappeler les interdépendances. En réalité, dès qu'on va observer des oiseaux, ou j'en sais rien, des mammifères ou des plantes, peu importe, c'est systématiquement ça qui me revient en mémoire. C'est aussi se rappeler ce qu'est l'écologie, hein, c'est l'étude des interdépendances, mais ça frappe particulièrement dès qu'on se met à le faire. Je parle d'un exemple, et on en avait discuté un petit peu ensemble aussi, Vinciane. Pendant très très longtemps, on a imaginé, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les ophrys, une orchidée qui ressemble un peu à une abeille, à des bourdons. C'est de très très jolies orchidées qu'on a ici, hein. Vous pouvez en voir assez facilement dans le massif des Bauges, par exemple. Et donc, les naturalistes ont imaginé que, en réalité, l'orchidée imitait l'abeille pour pouvoir l'attirer et être pollinisé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps, ce phénomène d'imitation, c'est ça qu'on observait. Mais ce qu'on n'avait pas vu en réalité et qu'on a découvert assez récemment, c'est qu'en réalité, la clé de tout ça, c'était une bactérie. Donc c'était un être vivant qui était au milieu et qui attirait aussi les abeilles au travers de son odeur et qui favorisait la pollinisation. Et donc il y avait un médium qu'on n'avait pas vu, un être vivant. Et je trouve que ce point-là, il illustre parfaitement ce qu'est l'écologie et ses interdépendances. Il y a tout un tas de comportements qu'on peut avoir et on ne le sait pas. Peut-être qu'ils sont influencés aussi par un être vivant, une bactérie. Et le libre arbitre qu'on croit avoir, bah, il n'est peut-être pas si évident. Il y a une tierce personne, non humaine pour le coup, qui intervient. Donc moi, ce que j'apprends en observant le vivant, en tout cas c'est ça. Et si ce n'est pas un apprentissage, c'est un rappel régulier de cette condition-là.
Bah, si je mets Benjamin dans un gros mixeur... et qu'après je prends une goutte et puis je séquence tous les génomes qu'il y a dans cette goutte, ben en fait le génome de Benjamin, c'est 1% de tous les génomes, enfin de toutes les traces d'ADN que je vais trouver, parce que le reste, ben c'est son microbiote, à la fois intestinal mais aussi sur la peau. En fait, c'est toutes les bactéries, tous les virus qui sont en lui. C'est parce que Benjamin n'est pas un individu mais un holobionte. Et effectivement, on peut se poser la question de en fait, est-ce qu'on n'est pas quelque part un espèce de support bipède en capacité de se déplacer pour nourrir toute cette petite faune? On a plus de 2 kilos de bactéries, de virus en nous, qui est extrêmement diversifiée. Aujourd'hui, il y a 1200 espèces, enfin variétés de bactéries qui colonisent nos intestins. On n'en connaît que très peu, on en séquence que assez peu, mais de plus en plus. Mais ces bactéries-là, quand elles reçoivent vos aliments, elles sont capables de transformer des glucides en lipides, etc., de créer des vitamines, de faire tout un travail qui vient invalider aussi beaucoup de l'ancien paradigme de la nutrition, où on vous met à la composition, vous avez tant de protéines, tant de glucides, tant de trucs, mais en fait, quand vous passez ça au prisme de vos bactéries, tout est transformé. Et des bactéries transforment le fruit de bactéries précédentes, etc. Donc c'est un gros micmac. Mais in fine, on collabore, et peut-être que aussi une des voies pour aller mieux en matière de santé, c'est d'être à l'écoute de ces besoins bactériens qu'on a en nous. Parfois, vous avez des pulsions, vous avez envie de manger tel ou tel truc, bah, peut-être que petite bactérie qui appelle ça. Bref, mais j'avais d'autres trucs à dire sur...
Je pensais que tu allais plutôt rebondir, en fait. Je trouvais que cette ode à l'interdépendance pouvait inspirer ce que l'humain a du mal à faire. Je suis en train de lire un très bon livre de Lumière Lapré, ces gens-là, sur les gens de la ruralité. Je vous incite à le lire, c'est sorti chez Payot. Et elle montre comment tout ce tissu et cette entraide, et c'est possible, a été cassé, notamment par le capitalisme. Et par la vision qu'on a de nos modes de vie égoïstes et singuliers. Et je pensais que tu allais plutôt rebondir là-dessus, sur l'hubris, l'humain, et la difficulté qu'on a finalement à s'inspirer du vivant et de ses interdépendances qui sont vitales pour rester...
Je vais prendre cette question et rebondir sur un truc qu'a dit Vinciane qui m'a inspiré un truc. En fait, qu'est-ce que les vivants nous apprennent? Et effectivement, c'est pas tant de l'inspiration de leur modèle d'organisation et tout, parce que en fait, on est des humains, on a un règne à pas. Enfin voilà. Par contre, je pense qu'en fait, justement, les vivants nous apprennent à être humains. Moi, parfois, quand j'ai un animal en face de moi, un petit chien et tout, en fait, je sens une espèce de vague d'amour circuler, et en fait, je me sens profondément humain. Et ma conviction, c'est que quelque part, ce qui nous relie, enfin, ce lien d'amour qui nous relie au toutou, au petit chat, au cheval, aux forêts, etc., c'est un prolongement de la capacité d'empathie. Et donc, si vous êtes capable d'empathie envers les autres êtres humains, vous pouvez prolonger ça en étant capable d'empathie envers le vivant, et vous allez avoir d'autant plus de mal à faire du mal au vivant. Et l'inverse est aussi vrai. Je pense que quelqu'un qui est capable de foutre un coup de pied dans son chien, dans sa vache, ou ordonner l'abattage direct d'une forêt, il y a des chances pour qu'il soit capable de mettre un coup à sa femme ou à ses enfants. Et ça, j'en suis convaincu, et je pense que ça nous pousse à nous poser la question de des valeurs individuelles et des valeurs systémiques. Je m'explique. À partir du moment où on dit que protéger le vivant, c'est un prolongement de la capacité d'empathie, on peut se poser la question de comment ça se fait qu'on s'est coupé autant de notre empathie et comment ça se fait que le système est coupé de son empathie. Et encore une fois, ça c'est une de mes convictions, mais peut-être que certains d'entre vous ici ont subi dans leur vie l'emprise de personnages narcissiques, de gens qui étaient complètement dépourvus de capacité d'empathie, qui vous ont manipulé, qui ont joué avec vos sentiments, qui vous ont fait du mal. Ça arrivait à beaucoup de gens forcément, que ça soit dans la sphère intime, au travail, etc. Mais le profil pervers narcissique, c'est un petit enfant qui n'a pas reçu sa dose d'amour inconditionnel. Généralement, c'est des petits enfants qui n'ont pas été sécurisés et donc qui perçoivent l'autre comme un danger et donc ils vont se couper de leur capacité d'empathie. Et ça se voit même physiologiquement, c'est des gens qui vont moins développer de neurones miroirs. Les neurones miroirs, ils activent notamment tous les petits muscles qui sont autour des yeux à ce niveau-là du visage. Hein. Donc généralement, si vous prenez un pervers narcissique, si vous prenez par exemple Macron, en fait, vous voyez que tout ça ne bouge pas. Voilà. C'est des gens qui ne sourient pas avec les yeux. Voilà, ils sourient. Enfin bref. Mais, sauf qu'en fait, on est dans un système qui est très hiérarchique, très hiérarchisé. Et donc, des personnages qui sont dépourvus d'empathie, c'est des personnages qui manipulent plus facilement, qui vont être capables de vous écraser plus facilement. Et donc, ils vont être capables de gravir les échelons d'une hiérarchie, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit en politique, plus facilement. Et donc, par capillarité, comme ça, vous en retrouvez plus au sommet dans les sphères de pouvoir. Et puisque les valeurs d'une classe dominante finissent toujours par devenir les valeurs dominantes, ça c'est Gramsci, eh bien, on se retrouve dans un système dont les valeurs sont pervers narcissiques. Le système dans lequel on vit ne favorise pas l'entraide, il favorise la compétition. Ce qui est reconnu socialement, ça n'est pas des choses liées à l'empathie. Voilà, ce n'est pas votre capacité à prendre soin, ce n'est pas votre capacité, mais sinon, vous pourrez rémunérer aussi tous les métiers du prendre soin. Et donc, on se retrouve voilà, dans un système qui est dépourvu de capacité empathique et dans lequel le fait de détruire le vivant ne pose pas de soucis émotionnels. Voilà, je pense qu'il y a un truc à tirer parce que tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, hein, les logiques individuelles, vous les retrouvez au niveau du système politique. Et c'est Jung qui nous apprend aussi très bien ça, le lien entre inconscient individuel et inconscient collectif. Et je pense qu'il faut relire Jung aussi.
Merci. Ah, avant de vous passer la parole dans 3-4 minutes, j'avais envie de rendre hommage à Sylvère Petit et à ce beau travail de... Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Arte qui s'appelle « Vivant parmi les vivants », qui a été réalisé par Sylvère Petit autour de la pensée de Baptiste Morisot et Vinciane Després. Et Vinciane y est à travers sa longue relation avec Alba. Et voilà, j'ai envie qu'on finisse là-dessus parce que une belle ode à ce que le vivant peut nous apprendre.
Peut-être alors conseiller le livre de Sylvère Petit qui est
j'allais
vraiment,
te laisser.
Voilà, que j'ai adoré, qui est une écriture très particulière. Moi, une écriture qui expérimente sur l'écriture, mais sans que ce soit, ne vous inquiétez pas, illisible, hein, parce qu'il y a des expérimentations sur l'écriture qui sont parfois difficiles quand on n'a pas l'habitude, et qui s'appelle « En attendant les vautours ». Et c'est une très belle histoire où il va prendre les sept... Donc, il est en observation dans le Cosmé-Jean. Et il observe les chevaux de Przewalski. Par moments, il va filmer Hélène Roche, qui est l'éthologue qui les observe, et Baptiste Morisot en discussion sur ce qu'ils ont vu, sur comment on nomme les choses, etc. Ça, c'est dans le film. Et puis, à un moment donné, la plus vieille jument des chevaux de Przewalski, Stipa, qui l'a suivie avec sa caméra, meurt. Et Sylvère se dit... Et les gens qui s'occupent du Cosmé-Jean disent, on va laisser son cadavre. Avec un peu de chance, les vautours viendront. Et c'est la vie qui continue. Et Sylvère va se mettre dans un affût parce que les vautours sont extrêmement attentifs à la moindre chose qui pourrait perturber leur environnement. Donc il va se créer un tout petit cabanon, un petit affût de, je crois que c'est un mètre de long et je ne sais pas combien de large. Et large, il peut tenir à peine lui son pied de caméra et sa caméra, et il va rester sans bouger, sans sortir pendant 7 jours à l'affût des vautours. Et c'est 7 jours-là qu'il vous raconte avec tout ce qui se passe, avec ses réflexions sur la mort, sur la vie de Stipa, sur les chevaux, sur les oiseaux qui viennent, qu'il entend, etc. Et c'est vraiment, et il parle à sa caméra. Et il lui parle, caméra. Et puis il va poser la question d'ailleurs, c'est quoi comme instrument une caméra? C'est quand même quelque chose qui a fort servi le colonialisme, qui est un instrument dont l'armée s'est servi, etc. Est-ce que nos rapports sont si amicaux que ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un moment, c'est un bijou, ce livre. Voilà, je vous conseille, En attendant les vautours, Silver Petit. Pas difficile à retenir comme nom, hein, l'homme des bois. Voilà.
Merci beaucoup. Je me souviens, Benjamin, on s'était dit que tu nous parlerais des vautours. Mais on était à Arles, c'était en août, il faisait très chaud. Et je ne savais plus ce que tu voulais nous dire sur les vautours, mais tu avais envie de nous partager quelque chose, je crois. Alors tu te souviens ou pas?
Pas du tout. Bon. Et qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là de
je
te dire
pas,
ça?
Je sais pas, tu m'as dit, mais peut-être ta compagne, tu m'as parlé des vautours.
Vu des vautours juste avant.
Mais je sais pas, tu m'as dit, il faudra que je parle des vautours. Donc j'avais noté les vautours, et puis comment on parle des vautours. Peut-être en lien avec Gilbert Cochet, peut-être, je sais pas pourquoi on s'est mis à parler des vautours.
Non, je sais pas.
Peut-être qu'ils avaient des choses à nous apprendre et que leur réintroduction en France est très précieuse.
Ça va peut-être leur revenir après, mais là, je sais pas du tout, ouais.
Le compostage. Pendant le stage.
Pendant le stage, oui, c'est vrai.
Merci, hein, parce que heureusement que tu étais là, parce qu'on est tous les deux amnésiques.
Ouais, c'est vrai. Pendant les stages, on a énormément de vautours qui passent sur le lieu, donc c'est effectivement un oiseau assez impressionnant. Et il nous passe des fois à quelques mètres alors qu'on est en train de déjeuner. Et en fait, ce qui se passe assez fréquemment, d'ailleurs, quand c'est comme ça, c'est que l'ensemble des stagiaires se lèvent, arrêtent de déjeuner pour observer les vautours. Et donc oui, c'est probablement ça que j'ai dû vouloir dire à ce moment-là. C'était pour illustrer cette question de la culture du vivant, c'est-à-dire d'être attentif aussi aux autres et aux non-humains. Et les vautours ont cette capacité de provoquer ça sur ce lieu, de nous détourner d'un repas qui est souvent très bon d'ailleurs, et de discussions très intéressantes entre humains pour nous recentrer vers les non-humains. Donc c'est souvent des observations assez magiques qui suscite beaucoup de joie pour l'ensemble des participants, pour tout le monde en fait.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est le moment donc des questions. Oui. Et donc comme je suis assez coercitive parce qu'on n'a que 14 minutes, je vous demande d'avoir la gentillesse de poser une question et pas de parler de vous pendant 5 minutes, même si c'est hyper intéressant et qu'on adore entendre parler de vous.
Bonjour, je vais essayer de faire très rapide. Je fais un lien entre ce qu'a dit Vinciane tout à l'heure, ce qu'a dit Olivier Amand cette semaine et Iliane Modib il y a 15 jours sur la difficulté ou plutôt il faut faire attention à l'interprétation humaine de ce que les vivants nous apprennent. Je prends l'exemple de la théorie de l'évolution de Darwin qui nous a mis en tête la compétition et au lieu de l'entraide. Et je pense que c'est venu valider des théories capitalistes. Voilà. Donc la compétition humaine serait identique à la compétition à travers les êtres vivants. Et on prouve bien que certains des êtres vivants n'existent pas sans la présence d'autres et que le collectif s'appauvrit. Donc en fait, cette théorie a beaucoup bercé les mentalités et on s'aperçoit à partir du moment où on s'y intéresse que c'est tout l'inverse. Donc qu'est-ce qui est votre pensée là-dessus, philosophique ou biologique ?
Je vais te laisser répondre, mais je pense que c'est surtout une mauvaise lecture de Darwin, plus que Darwin qui nous a mis ça en tête. Je vais peut-être en rajouter une couche.
Oui, j'ai une idée sur Darwin. En fait, moi, je suis allée relire justement l'origine des espèces dernièrement pour faire une BD justement avec un dessinateur, un caricaturiste belge. Et en fait, j'ai été très surprise en relisant ce livre à quel point le début de pratiquement chaque chapitre chez Darwin, il parle des interdépendances. Et en fait, il n'arrête pas de parler des interdépendances en disant on ne comprend rien si on ne parle pas de ces affinités mutuelles. Il a de très jolies, il a tout un vocabulaire pour parler de ça, et c'est très joli. Alors, d'un côté, on peut reprendre la phrase de Marx qui disait, c'est quand même un peu étonnant ce que M. Darwin reconnaît dans la nature, ses ouvertures de marché, son struggle for life, etc. Donc Marx, carrément, se moque un petit peu, alors que Marx était totalement en faveur de la théorie de la sélection naturelle. Mais il s'étonne un peu du fait que, d'une certaine manière, le vocabulaire de Darwin, la manière de parler de Darwin, est très affecté par ces ouvertures de nouveaux marchés, bref, par l'ouverture de la société industrielle. Et bon, ça, c'est un point. Mais Darwin n'a pas arrêté de parler des interdépendances, voire même de l'altruisme, en disant ça reste un mystère. Ça reste un mystère, on ne comprend pas très bien pourquoi un animal irait se sacrifier alors qu'il y a de la compétition. Donc il reste dans un modèle de compétition, c'est exact. Et qui est un peu triste, c'est que ça continue en effet à fonder beaucoup de l'imagination des biologistes aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'ils parlent de l'idée, c'est vraiment marrant, on a fait plein de théories pour expliquer l'altruisme, il n'y a jamais personne qui a pensé faire une théorie, enfin tu as déjà vu une théorie pour expliquer la compétition. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la compétition, c'est l'état par défaut. Alors que, vous savez, quand quelque chose doit être expliqué, ça veut dire que vous considérez que ce qui ne doit pas être expliqué, c'est l'état par défaut. Quand on pensait que l'homosexualité était une maladie ou un péché, on expliquait l'homosexualité, maladie ou vice ou quelque chose, mais l'hétérosexualité, on n'expliquait pas. Et idem pour quantité, on explique pourquoi les gens aiment les animaux, aiment les chiens ou les chats, et personne n'explique pourquoi les gens aiment les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est un état naturel. Et donc, la compétition était considérée comme l'état par défaut, ce qui faisait qu'on devait expliquer l'altruisme. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de partir sur une autre base, un peu à la Kropotkin, hein, le naturaliste russe, au demeurant anarchiste, et ce n'est pas un hasard, qui lui disait, d'une certaine manière, en fait, ce que Kropotkin a, on dit toujours Kropotkin a insisté sur l'altruisme, sur l'entraide et tout. Oui, bien sûr, parce qu'il trouvait que c'était quelque chose qui manquait chez les biologistes. Mais en fait, Kropotkin dit, ça dépend des conditions. Dans certaines conditions, les individus seront très compétitifs. Sur des îles, par exemple, et bien, il y a une très belle étude sur la mésange qui est publiée d'ailleurs chez Actes Sud, où on parle des conditions insulaires en faisant une comparaison en Corse et sur le continent. Je ne me rappelle plus que d'une auteure.
La mésange et la chenille, et c'est Claire Doutrelant, Anne Chamartier et Jacques Blondel, qui est le principal.
Ouais, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est magnifique. C'est un livre qui vous décrit des tas de choses que je ne savais pas sur les mésanges et qui pose des questions du style pourquoi est-ce qu'on a pensé pendant si longtemps que les femelles ne chantaient pas ? Comment est-ce qu'on représentait graphiquement la manière dont les mâles étaient intéressés par les femelles sans penser graphiquement, montrer que les femelles sont très intéressées par les mâles et des trucs comme ça. Donc il y a vraiment des petits bijoux. Mais toujours est-il, pour conclure avec ça, sans arrêter de penser la compétition comme l'état par défaut, à mon avis, changera énormément de choses en biologie.
Et puis pour rebondir sur ce que tu disais sur la maison, moi aussi ce qui m'a intéressé, c'est que tout à l'heure je racontais qu'on connaissait que 20% des espèces, mais en réalité quand on dit ça, c'est juste les nommer, ça ne veut pas dire qu'on les connaît. Et ce qu'ils racontent très bien dans ce bouquin, c'est qu'ils ont étudié pendant 50 ans, qu'il y a eu plus de 18 thèses, et que malgré tout, on ne sait pas encore exactement tout sur ces espèces. Et ça n'en est qu'une seule. Il a réussi à faire un livre là-dessus, enfin ils ont réussi à faire un livre là-dessus. Donc je trouve ça absolument fascinant aussi, c'est très intéressant.
Vous aurez compris que la collection à lire, elle s'appelle Monde Sauvage chez Actes Sud. Voilà, tout ce dont on parle, quasiment.
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question très rapide. Est-ce que ce que les vivants nous apprennent, finalement, en tout cas les êtres sentients vivants, est-ce que ce qu'ils nous apprennent, c'est pas qu'ils ont envie de vivre ? Pourtant, on massacre des milliards d'animaux chaque jour. Et est-ce que, pourquoi est-ce qu'on est plus capable aujourd'hui de les tuer nous-mêmes pour les manger ? Pourquoi est-ce qu'on délègue ça à d'autres et qu'on ne veut pas affronter la mort ? Voilà, ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi ? Alors, moi, je n'en mange plus des animaux, mais pourquoi est-ce qu'on est plus capable d'affronter la mort alors que ces animaux, ils ont envie de vivre, comme nous ?
Merci. Vous étiez à la conférence de François Lasserre hier, non ?
Oui, c'est
attention, je vous débusque. C'est chaud. Je pense que c'est une question pas forcément adaptée à notre public.
Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je pense que c'est... Je n'aime pas les grandes généralisations. Et répondre comme ça, vif, paf, pouf, en disant notre culture, notre tradition, la chrétienté, bref, tout ça, ce ne serait pas juste. Je pense qu'il faut des historiens ou des gens et des anthropologues et il faut retracer minutieusement toutes les étapes qui ont fait qu'on en arrive à penser que c'est normal d'avoir de la viande en barquette. Je pense que c'est ça. Et ce n'est pas le fait qu'on ne tue plus nous-mêmes les animaux. La plupart d'entre nous en seraient strictement incapables. Je serais la première à crever de faim, probablement. Parce que non seulement je ne peux pas tuer les animaux, mais je ne serais pas capable de reconnaître une herbe empoisonnée d'une graine bonne. Donc je vais dire, comment est-ce qu'on en est arrivé à trouver que c'est normal d'avoir perdu tout contact avec ce qui nous nourrit et de ne plus être en lien avec ce qui nous nourrit? Et là, je pense que ça demande un travail extrêmement minutieux, comme l'a fait, Baptiste me le rappelle, c'est par exemple, de Benjamin, pardon, qui me le rappelle, c'est comme Charles Stepanov, un travail minutieux, comme les historiens du Moyen-Âge, comme Noélie Villial, qui montrait finalement comment nous sommes devenus des consommateurs sarcophages. Bref. Et ce travail minutieux, on ne peut pas répondre comme ça. On peut juste reposer votre question en disant, pourquoi trouvons-nous ça si normal? Qu'est-ce qui nous est arrivé?
En tout cas, il a fait un très bon bouquin qui répond exactement à cette question-là, qui s'appelle « L'animal et la mort ». Donc, la meilleure réponse est peut-être celle-là, c'est de renvoyer vers ce livre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Honnêtement, d'ici, on ne voit pas très bien avec les spots.
On va pouvoir aller manger.
Alors. Oui, alors, ce que je vous propose, c'est que, bien entendu, nos trois intervenants seront disponibles pour la signature de tous les ouvrages que vous aurez envie de découvrir. Mais avant, on va aller déjeuner, en fait. Donc, ça se fera plutôt à partir de 14h. Je pense que 14h30 pour Vinciane, 14h pour Benjamin. Non, je rigole.
Vous avez aimé cet épisode? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt!